VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 23 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Cameroun, Washington estime qu'il y a eu des irrégularités lors de la présidentielle du 7 octobre qui a permis de réélire Paul Biya.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide pour un rôle accru de son organisation en Centrafrique.
En Guinée-Bissau, le recensement électoral pour les législatives a été prolongé d'un mois.
En Guinée équatoriale, libération hier de 34 membres du principal parti d'opposition.
En Turquie, discours attendu aujourd'hui du président Recep Tayyip Erdogan sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les États-Unis ont estimé hier que des irrégularités lors du scrutin présidentiel au Cameroun font douter de la crédibilité de la victoire de Paul Biya et Washington appelle toutes les parties à régler leurs différends par les voies légales. Le point avec Abdourahmane Dia.
Tout en saluant l'amélioration par rapport aux élections de 2011, il y a eu un certain nombre d'irrégularités avant, pendant et après le vote du 7 octobre, a révélé Heather Nauer, porte-parole du département d'État américain. Ces irrégularités ont pu ne pas affecter le résultat final, mais ont créé une impression que l'élection n'était pas crédible ou vraiment libre et équitable, a-t-elle poursuivi, tout en exhortant toutes les parties, y compris le gouvernement, à résoudre pacifiquement tout litige à travers les canaux légaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a aussi lancé un pareil appel à suivre la voie légale en cas de contestation. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 35 ans au pouvoir, a été réélu pour un septième mandat avec 71,28% des suffrages. Les résultats officiels ont été publiés hier par le Conseil constitutionnel qui avait déjà rejeté tous les recours des candidats de l'opposition.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide pour un rôle accru des Nations Unies en Centrafrique dans la perspective d'élections en 2020-2021. Il l'a dit dans un rapport remis récemment aux 15 membres du Conseil de sécurité. Au vu du contexte actuel, certaines des missions de la MINUSCA doivent être renforcées comme son soutien politique au processus de paix et à la stratégie sécuritaire, précise Antonio Guterres. Deux nouvelles tâches sont recommandées, un soutien logistique à la défense nationale et aux forces de sécurité et au processus électoral.
En Guinée, l'opposition a décidé, selon l'AFP, de maintenir l'organisation d'une manifestation aujourd'hui à Conakry, en dépit de son interdiction, et ce, une semaine après la mort d'un manifestant lors de deux journées ville morte. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir violé un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février et de corrompre notamment certains de ses élus pour s'assurer le contrôle de mairies à travers le pays.
En Guinée-Bissau, le recensement électoral, dont la fin était prévue pour le 20 octobre, a été prorogé d'un mois. L'annonce en a été faite hier par la ministre de l'administration territoriale, Esther Fernandez. Ce nouveau délai devrait donc entraîner un report des législatives du 18 novembre. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La date limite d'inscription des électeurs sera le 20 novembre. Le gouvernement a suivi la loi électorale qui donne 60 jours pour le recensement. Il a donc 30 jours pour respecter ce délai. À l'issue de la prolongation du recensement jusqu'à deux jours après la date prévue pour les législatives, il restera à connaître la nouvelle date des élections législatives, a indiqué la ministre de l'administration territoriale, Esther Fernandez, laissant entendre que le scrutin sera reporté. Il n'appartiendra pas au gouvernement de parler de la date des élections, a-t-elle précisé, affirmant que cette prérogative relevait du président de la République, José Mario Vaz. Le recensement initialement prévu à partir du 23 août pour un mois avait finalement commencé le 20 septembre à cause de problèmes logistiques. Sa prolongation intervient au lendemain d'une marche à Bissau de plusieurs milliers de personnes à l'appel d'une vingtaine de partis d'opposition qui ont dénoncé son manque de transparence.
En Guinée équatoriale, 34 membres du principal parti d'opposition ont été libérés hier, 12 jours après l'annonce d'une grâce présidentielle. Des détails avec Nani Talani.
Le président du parti de l'opposition citoyen pour l'innovation, Gabriel Nsé Obiang, se dit satisfait parce que ses camarades ont été relâchés, même si beaucoup présentent des séquelles de torture. Pergantino Miguel Edou a le bras cassé depuis 9 mois avec une hémorragie interne, selon M. Nsé Obiang. Il ajoute que 2 autres militants, Evaristo Oyagasima et Juan Obama Edou, sont morts en détention. Le gouvernement a démenti cette information. Incarcéré à la prison de Vinayong, ses opposants ont été condamnés en février à 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves après des échauffourées avec les forces de l'ordre pendant la campagne pour les législatives en novembre 2017. Le parti d'opposition Citoyen pour l'innovation est interdit depuis février. La télévision d'État parle de plus de 160 détenus graciés. La vague des libérations a débuté samedi avec la sortie de prison de 55 personnes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan doit s'exprimer à 8h temps universel devant le Parlement à Ankara. Il a en effet promis de révéler ce mardi toute la vérité sur le meurtre du journaliste et critique du régime saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu à Istanbul il y a 3 semaines au consulat d'Arabie saoudite. Après avoir soutenu que Khashoggi était ressorti du consulat, Riyad a fini par avouer samedi que le journaliste était bel et bien mort au consulat lors d'une rixe. Selon l'Arabie saoudite, il s'agissait d'une opération non autorisée par le pouvoir et dont le prince héritier Mohammed ben Salman n'était pas informé. Une explication qui n'a pas beaucoup convaincu, surtout dans les grandes capitales occidentales.
La caravane de migrants centra-américains qui se dirige vers les États-Unis comprend plus de 7000 personnes, selon Farhan Azikhak, porte-parole adjoint de l'ONU, qui cite une estimation de l'Organisation internationale pour les migrations. Le point avec Jacques Aristide.
La caravane comprend précisément 7233 personnes, dont la plupart ont l'intention de continuer leur marche vers le nord, a déclaré hier Farhan Aziz Haq, en soulignant la nécessité qu'elle soit traitée avec respect et dignité. Le porte-parole adjoint de l'ONU a précisé que l'OIM et le HCR sont mobilisés pour porter assistance à ces migrants. Il a révélé que le HCR a renforcé ses capacités dans le sud du Mexique avec 32 personnels. D'après lui, ce chiffre est appelé à augmenter pour s'assurer que toutes les informations sur les procédures d'asile, dont des conseils légaux et une aide humanitaire si nécessaire, soient données à ces migrants. Après avoir passé une deuxième nuit au Mexique, des milliers de migrants, majorité honduriens, ont repris leur route pour tenter de rejoindre la frontière américaine à 3000 km. Leur périple peut durer au moins 1 mois. Le président Donald Trump, qui a déjà menacé de fermer la frontière sud, a annoncé hier une réduction immédiate des aides au Honduras, au Guatemala et au Salvador, accusé de ne pas avoir été capable d'empêcher cette nouvelle vague de migrants.
Et ajoutons que le président Trump a de nouveau qualifié la caravane d'assaut contre les États-Unis. Intervenant hier dans un meeting politique à Houston, dans le Texas, M. Trump a dit aussi qu'il y avait parmi ces migrants des gens très mauvais. Il avait laissé entendre auparavant dans un tweet qu'il s'agissait de terroristes, affirmant que des criminels et des ressortissants inconnus du Moyen-Orient s'étaient infiltrés dans la caravane. Des reporters voyageant avec les migrants disent n'avoir remarqué aucun des ressortissants en question dans le groupe.
Au Yémen, où la guerre fait rage depuis 2015, jusqu'à 14 millions de personnes pourraient être en situation de pré-famine dans les mois à venir si la tendance actuelle devait se poursuivre. C'est ce qu'estime le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, dans une récente note interne. Selon lui, la situation humanitaire au Yémen est la pire du monde. 75% de la population, soit 22 millions de personnes, ont besoin d'une aide et de protection, dont 8,4 millions sont en situation d'insécurité alimentaire grave et dépendent d'un apport en nourriture urgent.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire vise une production de 2 millions de tonnes de caoutchouc d'ici à 5 ans. Pour y arriver, Abidjan doit multiplier par 2,5 sa production. Cette année, les estimations se situent à environ 800 000 tonnes de caoutchouc sec. Les prévisions initiales étaient de 600 000 tonnes en 2020. La Côte d'Ivoire est le 7e producteur mondial. L'EVEA contribue aux recettes d'exportation. Le Rwanda accueille du 24 au 26 octobre à Kigali les délégués à l'examen à mi-parcours de la 14e reconstitution du Fonds africain de développement. Il compte 32 pays contributeurs et bénéficie à 38 des pays africains les plus vulnérables et les moins avancés. Depuis 1974, le Fonds a investi un montant cumulé de 45 milliards de dollars sur le continent africain. Le Kenya veut attirer 2,5 millions de touristes annuellement d'ici 2022. Le secteur a connu une augmentation des arrivées et des recettes. L'industrie du voyage et du tourisme représente déjà 15,3% des exportations totales et 8,9% des emplois. Les nouvelles projections d'arrivées représentent une augmentation de près de 72% par rapport au chiffre de 1,45 million en 2017. D'après le World Travel and Tourism Council, le secteur devrait croître à un rythme annuel de 6% au cours des 10 prochaines années.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les demi-finales retour de la Ligue africaine des champions.
Vainqueur de la Manche aller 1-0 chez lui, le Primeiro de Agosto rêve de rentrer dans l'histoire du foot angolais en cas de qualification face à l'Espérance de Tunis. Ce sera tout à l'heure en demi-finale retour de cette Ligue africaine des champions. Dans l'autre confrontation du dernier carré, Al Ahly s'est offert la première manche, victorieux 2-0 face à Sétif. Les buts avaient été inscrits au match aller par Walid Soliman et Islam Moareb.
En Ligue des champions en Europe et le retour de Ronaldo à Manchester.
Cristiano Ronaldo revient à Old Trafford, le stade qu'il a vu remporter son premier ballon d'or, c'était en 2008. Après un grand match ce week-end contre le Genoa, Ronaldo va faire son retour lors de cette troisième journée de la Ligue des champions. À Manchester United, en revanche, ça ne va pas très fort. La situation de José Mourinho et les performances de Paul Pogba font osciller les supporters entre indignation, colère et soutien mesuré. À noter que pour ce match, l'attaquant de Manchester United, Alexis Sanchez, sera absent.
Les autres matchs ?
Le Real Madrid en pleine crise va chercher à se rassurer face à la modeste équipe tchèque du Viktoria Plzeň lors de cette troisième journée. Mercredi, l'Atlético Madrid se rendra sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain accueillera Naples alors que le FC Barcelone, sans Lionel Messi, affrontera l'Inter Milan.
La Fédération italienne de football a enfin un président.
Oui, Gabriele Gravina, qui était jusqu'alors président de la Lega Pro, le championnat de 3e division, a été élu hier président de la Fédération italienne de football, et ce près d'un an après la démission de son prédécesseur Carlo Tavecchio. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA cette nuit, le championnat de basket nord-américain.
Orlando bat Boston 93-90. Toronto massacre Charlotte 127-106. New York Knicks battu par Milwaukee 124-113. Minnesota 101, Indiana 91. Dallas 115, Chicago 109. Memphis 92, Utah 84. Washington 125, Portland 124. Et enfin, Golden State bat Phoenix 123-103.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, après près de 36 ans au pouvoir, le président Paul Biya a donc été reconduit pour un mandat de 7 ans. Avec 71,28% des suffrages exprimés, il est largement vainqueur de l'élection du 7 octobre, loin devant ses rivaux Maurice Kamto, Cabral Libi et Joshua Ossi. L'opposition est montrée du doigt pour avoir été incapable de désigner un candidat unique dans ce scrutin à un tour. Jacques Aristide s'est entretenu avec Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun.
On n'est pas surpris parce que les forces en face de M. Biya Paul, la classe d'opposition, n'a pas été capable avant la convocation du corps électoral de créer une dynamique de convergence des forces pour capitaliser le rejet de ce système qui a au sein de l'opinion camerounaise. Et par conséquent, cette classe politique n'a pas été capable d'impacter sur les inscriptions sur les électorales. Et on va aux élections avec un fichier électoral essentiellement contrôlé par le RDPC à travers l'organe de gestion des élections qui n'est que de 6 millions à peine d'électeurs inscrits sur un potentiel de 16 millions. Et ces 6 millions, à la réalité, reproduisaient le schéma des élections de 2013 où M. Biya Paul et son parti l'avaient emporté avec près de 3 millions de voix de différence. Donc, sur le même fichier électoral, il ne fallait pas s'attendre à une magie ou à autre chose. Donc, la faute, voyez-vous, c'est la classe de l'opposition qui, dans une logique messianique, n'a pas été capable de fédérer avant pour créer ce qui aurait pu amener les gens à s'inscrire. Bien entendu, quand j'ai fini de dire cela, nous n'attendions pas une coalition des candidats, mais une coalition des forces de changement en face du système de M. Biya qui, il faut le dire, c'est très clair, est totalement omis par une bonne majorité des Camerounais. Parce que les résultats même rendus par la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, montrent clairement que moins de 4 millions d'électeurs ont pu s'exprimer et 4 millions n'est pas représentatif par rapport aux 16 millions de potentiels électeurs que le Cameroun compte aujourd'hui.
La situation est-elle tendue à Yaoundé et ailleurs dans le pays ?
Elle est plus tendue de manière virtuelle, mais la perception de la tension peut se voir à travers le grand déploiement des forces de sécurité dans la plupart des carrefours de la ville. Il faut noter qu'il y avait un appel à manifestation par des groupes pour la place de la poste centrale aujourd'hui qui n'a pas pu se tenir. Peut-être à cause de la grande militarisation, mais aussi la démobilisation des Camerounais qui, avec les 14% que le principal opposant aujourd'hui a pu avoir, n'était pas de nature à pouvoir générer une mobilisation populaire suffisante.
Le Cameroun, c'est un pays confronté à Boko Haram, aux sécessionnistes des deux régions anglophones, mais aussi à l'émergence d'une certaine tension ethnique. Le défi pour Paul Biya, ce président de 85 ans, sera-t-il de préserver l'unité du pays qui paraît aujourd'hui très fractionné d'après des observateurs?
Je ne connais pas son programme de campagne, d'ailleurs, qui n'a pas fait campagne du tout. Et donc, la question de la préservation de l'unité ne semble pas, au regard de sa gouvernance de 36 ans, être une grande préoccupation. Je pense qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser la gestion de son propre pouvoir pendant ce temps, quitte à ce que l'exacerbation des haines tribales et régionales puisse se faire. Ça semble ne pas être une grosse préoccupation par M. Biya Paul, qui s'est illustré par son incapacité à gérer la crise anglophone ou à adresser les questions posées par les anglophones sur la table.
C'était Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun, joint hier à Yaoundé par Jacques Aristide. Pour sa part, Eric Manirakiza a recueilli hier soir les réactions d'auditeurs de VOA Afrique au cours de l'émission interactive « À votre avis ».
Ce qui vient de se passer au Cameroun, c'est déplorable, parce que Paul Biya ne pouvait pas passer. Franchement, quelqu'un à 85 ans ne peut rien développer que son ventre. Il ne peut rien développer que sa famille biologique et politique. Comment nous devons continuer avec des gens comme ça?
Le long règne de Paul Biya est un règne de médiocrité parce que depuis son accession au pouvoir, depuis 1982, tous les indicateurs de développement humain sont au rouge. Il y a deux classes au Cameroun, une classe des pauvres qu'il a su maintenir par la peur et par la répression de son armée, et une autre classe de profiteurs composée des fonctionnaires camerounais, des sultanats dans le Grand Nord, d'autres l'Amido. Voilà comment Paul Biya a constitué autour de lui une classe qui a humilié, handicapé et divisé les Camerounais. Sa victoire d'aujourd'hui est une insulte à la démocratie et c'est une entrave grave à l'évolution de l'humanité. Voyez-vous, c'est une tragédie pour la démocratie.
Je ne partage pas mon avis avec vraiment mon prédécesseur. Je commencerai d'abord à féliciter son excellence Paul Biya pour sa réélection parce que ceux qui vivent ici au Cameroun, c'est eux, dans la plupart, qui ont quand même voté, qui ont fait quand même leur choix. Le Camerounais analyse tout. En cas de changement, que deviendrait le Cameroun? Par exemple, s'il y avait eu un changement de président, la CAN, en tout cas, ne se jouera pas ici au Cameroun parce que tous ceux qui avaient quand même l'argent pour la construction des stades et autres, en tout cas, vont fuir et partir avec cet argent.
Moi, je crois que la population a été consciente des actions de Paul Biya et même de la personne de Paul Biya. Il ne va pas changer.
La réélection de Paul Biya quand même ne me surprend pas. Là, il faut reconnaître que Paul Biya, il a beaucoup duré et je pense que prochainement, il va quand même abandonner et laisser le pouvoir à une jeunesse quand même qui, de mon point de vue, est compétente aujourd'hui et qui est prête aussi à relever les défis.
C'est quelque chose qui est très dommage de voir M. Paul Biya à 85 ans d'être réélu encore pour un mandat de 7 ans encore après avoir passé plus de 35 ans au pouvoir. C'est quelque chose vraiment qui indigne toute la jeunesse camerounaise.
Moi, je dis que le peuple camerounais, sans réelle opposition, vient d'approuver, n'est-ce pas, la continuité de la dictature du président Paul Biya selon le verdict du Conseil constitutionnel.
En Afrique, le président sortant, vraiment, il ne sort pas. Par exemple, on a vu aussi plusieurs pays qui ont marché par rapport à présents qu'ils ont fait au moins 35 ans au pouvoir ou bien 30 ans au pouvoir. Donc, je pense que d'aujourd'hui, et leur pays, ils ont agressé d'aujourd'hui, surtout dans mon pays comme le Mali ou bien Burkina Faso ou bien à Côte d'Ivoire. Donc, je pense que vraiment, il faut que les peuples camerounais doivent garder leur espoir.
Vous savez, 35 ans au pouvoir, plus laisser transférer 32 ans, c'est près des 11 mandats aux États-Unis. Donc, je ne pense pas que Paul Biya puisse incarner le changement pour de sa population lambda.
Ces réactions d'auditeurs au résultat de la présidentielle au Cameroun ont été recueillies par Eric Manirakiza.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, aucun représentant de l'État n'est dans cette commune de plus de 16 000 habitants dans le cercle de Goundam. On parle ici de Tonka, capitale de la patate douce jaune. Cette année, la crue a dévasté les champs de céréales et de tubercules. Avec la montée des eaux, plusieurs cultivateurs ont presque tout perdu. Tonka manque d'eau potable, d'électricité et de sécurité. On y dénombre de multiples cas de viols commis par des hommes armés non identifiés. Personne ne peut aller au-delà de 5 km ou à une foire hebdomadaire, nous dit Kassim Traoré, qui se trouve dans la région de Tombouctou, à Tonka même.
Tonka est l'une des communes rurales du cercle de Goundam. Ici, les jeunes gagnent très bien leur vie, surtout en cette période de crue. Aujourd'hui, avec l'insécurité, aucun piroguier ne peut aller d'une berge à une autre. Mamadou Konipo, maire de la commune rurale de Tonka.
Quand tu quittes ici aujourd'hui pour aller dans les foires ou dans les villages, tu es braqué, on prend tout ce que tu as comme ressources. Donc même si les gens vont aller vendre leurs petites chèvres, leurs petits moutons pour leurs besoins, entre deux villages, tu vas trouver ici. Sont braqués et les populations sont très très appauvries aujourd'hui et il y a la famine qui est en train de nous menacer aujourd'hui.
Parmi les 16 000 âmes de Tonka, les femmes sont les plus nombreuses. Aujourd'hui, elles sont dans l'angoisse totale. Korko Fanta Maïga, membre de la CAF.
Il y a l'insécurité qui domine dans la commune. Il y a la violence faite aux femmes et aux filles par des bandits armés et des individus inconnus. Il y a les enlèvements des biens et enlèvements même d'individus. Il y a l'exode des jeunes parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a la crise totale parce qu'il y a la faim dans la commune. La récolte n'est pas dense. Dans le lac, il y a les tarés qui ont amené les bétails pour manger les récoltes. C'est un peu difficile ici.
Le chef de village a égrené devant nous les localités susceptibles d'attaques au quotidien. Nous, Issa Sangaré, chef de village de Tonka.
Les zones de Tonka, là où il y a beaucoup d'attaques, c'est le côté Yurmi, Pintara, Echel, Tamachi et un peu sur la route de Gounda. L'armée est là sur la colline, mais pas avec les populations. Ils sont sur la colline. La solution de ce problème-là, il faut que nous nous asseyons pour parler et discuter de nos problèmes.
La seule satisfaction des habitants de Tonka est le fait que l'école fonctionne normalement. Boubacar Ali Djama, président du conseil régional de la jeunesse de Tonka.
Une grande ville comme Tonka, si on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau potable aussi, en fait. C'est la commune dans laquelle les écoles sont plus fonctionnelles. Malgré l'insécurité résiduelle, les écoles quand même marchent.
Quelles sont les activités de la jeunesse?
Ça, c'est d'abord, il y a l'agriculture, après la pêche, ainsi que l'élevage.
Malgré la présence de l'armée malienne à travers un détachement, les femmes ne sont pas tranquilles dans la localité de Tonka.
Il y a l'inondation des villages et des récoltes aussi, des périmètres à endommager les récoltes. On a l'appel parce qu'on est dans l'insécurité totale. On ne peut même pas marcher à 45 km de la commune. Il y a la famine, il y a les maladies, il y a la souffrance, surtout les viols même.
En plus du manque d'eau potable, d'électricité et de l'insécurité, Tonka fait face à une famine parce que les cultures ont été envahies par les eaux de pluie. Tonka, Kassim Traoré pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
De nombreux migrants, parmi les milliers, la plupart venus du Honduras et massés à la frontière nord du Guatemala, ont réussi malgré tout à franchir la frontière avec le Mexique. Ils veulent traverser ce pays pour venir aux États-Unis. Le chemin est laborieux, certains découragés sont retournés chez eux, mais d'autres restent déterminés à atteindre à tout prix le sol américain, malgré les sévères mises en garde du président Donald Trump. Reportage de Zlatika Hawk, repris ici par Chérubin Dorsil.
Jeudi, les autorités mexicaines sont parvenues à bloquer la caravane à la frontière, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve Suchiate, séparant le Mexique du Guatemala. Michael, un migrant venu du Honduras.
Nous prenons beaucoup de risques à traverser la rivière. Nous risquons nos vies parce qu'au Honduras, il n'y a aucune chance de vie meilleure. Il n'y a pas d'avenir.
Dans un premier temps, le président Donald Trump a remercié le Mexique d'avoir bloqué cette avancée des migrants.
Je veux remercier le Mexique qui a été incroyable et qui respecte maintenant le leadership des États-Unis.
Après avoir passé une deuxième nuit au Mexique, des milliers de migrants ont repris la route pour tenter de rejoindre la frontière américaine. Le président Trump a accusé ces trois pays, le Guatemala, le Honduras et le Mexique, de ne pas avoir été capables d'empêcher cette déferlante. Nous allons commencer à couper ou réduire de façon significative l'énorme aide que nous leur accordons, a prévenu M. Trump dans un tweet. Le chef de l'exécutif américain a reproché à l'armée et à la police mexicaine d'être incapables d'arrêter les migrants. Il avait déjà menacé de fermer la frontière si le Mexique échouait à stopper la progression des migrants.
Je vais fermer la frontière avant qu'ils arrivent dans notre pays. Je vais envoyer des soldats, non des réservistes, mais des militaires.
Son administration a été critiquée pour le traitement réservé aux migrants à la frontière avec le Mexique. Dimanche, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden est revenu sur le sujet dans l'État du Nevada.
What the hell's going on? Mais bon sang, que se passe-t-il aux États-Unis? Arracher des enfants des bras de leur mère à la frontière? Que faisons-nous? Que sommes-nous devenus?
Battant campagne pour les Républicains dans une autre partie du Nevada, le président Donald Trump en a fait une question politique à l'approche des élections de mi-mandat du 6 novembre prochain. Il a accusé les démocrates d'attirer des criminels aux États-Unis.
Le Parti démocrate invite ouvertement des millions d'étrangers illégaux à ne pas respecter nos lois, à violer nos frontières et à submerger notre nation.
Les présidents du Guatemala et du Honduras ont tenu une conférence de presse conjointe pour inviter les migrants à retourner chez eux. Le président hondurien Juan Orlando Hernández.
Je veux assurer les Honduriens que nous avons une équipe travaillant pour les accueillir et des offres en termes d'opportunités dépendant de ce que chaque citoyen veut faire de sa vie.
Offertes en termes de l'option est difficile allá en el puente.
Environ 3000 personnes composent cette caravane, selon un commandant de la police fédérale mexicaine. Mais le chiffre pourrait être plus élevé encore. Ils ont affronté la chaleur, escortés par des policiers locaux et survolés par un hélicoptère. La plupart d'entre eux n'ont ni eau ni nourriture. Leur trajet de 3000 km pourrait prendre un mois, selon Rodrigo Abeja, membre de l'organisation Pueblos Sin Frontera, Peuple Sans Frontières, qui a déjà accompagné plusieurs caravanes vers les États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.